sommes sans passé les femmes, nous qui n'avons pas d'histoire. Nous qui sommes sans passé les femmes, nous qui n'avons pas d'histoire.
Nos que non temos pasado, mulleres, nos que non temos historia. Logo da noite dos tempos, mulleres, nos continente negro. Ergámonos, mulleres, rachemos as barreiras en pé. Mulleres trafegadas, violadas dentro de todas las casas, mulleres e do mundo illadas. Ergámonos, mulleres, rachemos as barreiras en pé, en pé, en pé, en pé, en pé, en pé. Rachemos as barreiras en pé, en pé, en pé, en pé, en pé, en pé. Recoñecémonos todas mulleres.
Bonjour, la révolution sera féministe sur Radio Galère. J'espère que tout marche bien au niveau du son. Je suis vraiment désolée pour ce petit retard qui n'était pas dû à moi, mais en fait à un problème technique Radio Galère, voilà, donc qui semble résolu. Du coup, j'avais plein de choses à vous dire. Enfin, comme d'habitude, je prépare beaucoup trop de choses, mais bon, donc je vais un petit peu improviser en fonction de mon humeur et je vais choisir un petit peu par rapport à ce qui m'inspire, en espérant que cela vous intéresse et vous plaise. Alors, pour commencer, je vais vous parler de Eliane Viéno, qui est une grande féministe que j'ai eu la chance de rencontrer à l'université d'automne de l'Assemblée des femmes. Donc il n'y a pas longtemps, c'était en septembre, par rapport à le thème, c'était les antiféministes, les masculinistes. Donc voilà, très vaste thème. Et donc là, je ne vais pas vous faire écouter elle qui parle parce que les audios que j'ai pris à ce moment-là sont pas très très bons. Mais ce n'est pas grave, je vais quand même vous relater un de ses travaux très important. Donc en fait, c'est une professeuse émérite de littérature française. Elle a enseigné la langue et la littérature française dans les universités de Seattle, Nantes, Corte et Saint-Étienne. Et elle a effectué des recherches qui portent sur les écrits des princesses de la Renaissance, l'histoire des relations de pouvoir entre les sexes en France, la querelle des femmes, donc je vais vous expliquer de quoi il s'agit, ses conséquences dans la langue française. Et voilà, elle a son dernier livre paru, ça s'appelle justement « La querelle des femmes » ou « N'en parlons plus ». Donc c'est très intéressant. Parce que sans doute, vous ne savez pas forcément, enfin peut-être vous savez, de quoi il s'agit, la querelle des femmes. Eh bien, en fait, il faut savoir qu'aujourd'hui, alors que les féministes ont fait renaître un autre mot, le matrimoine, pour désigner les réalisations culturelles que les femmes nous ont laissées, eh bien, cet héritage très moderne, c'est un héritage dont la modernité, en fait, a été spoliée. Et elle explique qu'il est impératif de se réapproprier aussi l'histoire des batailles idéologiques et politiques qu'elles ou ils ont menées, celles qui expliquent où nous en sommes et qui sont nos ennemis. En fait, l'idée que le féminisme daterait du 19e siècle ou au mieux de la Révolution, c'est ce qu'on nous apprend souvent à l'école, eh bien, c'est le produit en réalité d'un effacement de l'histoire qui a été orchestré par les artisans de la domestication des femmes. On sait que pour obtenir la soumission durable d'un peuple, l'un des moyens les plus efficaces est de le priver de la connaissance de son passé et de remplir son imaginaire des hauts faits des dominants. Les Françaises d'aujourd'hui en sont toujours là. Nos ancêtres, les hommes, apprennent-elles à l'école, à l'université, lors des journées du patrimoine. Dans leur immense majorité, les Françaises sont incapables de citer 5 noms de reines ayant gouverné leur pays, ou d'autrices célèbres de la Renaissance, ou de peintresses membres de l'Académie royale de peinture et sculpture. Même les mots sont manquants. Il y a pourtant longtemps que le problème est repéré, dénoncé, analysé, et qu'il fait l'objet de rapports commandés par des ministères, puis sagement rangé dans un placard. Cet immobilisme n'est pas une fatalité. Il est organisé par des gens qui n'ont pas intérêt à ce que cette histoire vienne au jour et délivre ses enseignements. Car au-delà des femmes particulières que l'on pourrait découvrir à cette occasion et dont la connaissance entraînerait mécaniquement une baisse de la place accordée aux hommes dans nos livres, nos musées, nos villes, nos imaginaires, il y a beaucoup plus grave, explique Eliane Viennot. Ce qui nous échappe grâce à cet effacement de l'histoire des femmes, c'est celle des relations entre les sexes, et notamment son versant sombre, l'histoire de la domestication des femmes, voulue, pensée, théorisée et mise en œuvre à partir de la fin du Moyen-Âge par un groupe dont nous ignorons aujourd'hui jusqu'au nom, encore un mot manquant, la clergie, la classe des savants. Cette histoire-là commence en Occident avec la création des universités qui permit aux savants chrétiens de se réserver la délivrance des diplômes et dont l'accès aux métiers exigeants des savoirs complexes, c'est-à-dire la haute fonction publique, les professions juridiques, l'enseignement supérieur, la médecine, etc. Non seulement ces domaines se développèrent alors comme des déserts de femmes, et entre parenthèses de juifs, mais les places occupées dans ces lieux de pouvoir permirent à leurs détenteurs de modifier le rapport de force entre eux et leurs concurrentes potentielles. C'est ainsi qu'ils organisèrent l'amoindrissement continu de la capacité juridique des femmes, qui entraîna la dégradation de leur statut professionnel et familial, leur paupérisation, leur recours de plus en plus fréquent à la prostitution, mais aussi l'adhésion d'hommes de plus en plus nombreux à leur idéal des relations entre les sexes. C'est à eux, par exemple, qu'on doit l'introduction du droit de correction dans les coutumiers, les jugements complaisants envers les maris violents, dans les rares cas parvenant en justice, et la privation de la capacité des femmes à porter plainte, qui survivra jusqu'en 1938. L'autre poteau rose qui serait découvert si cette histoire était connue, c'est la résistance que leur opposèrent les gens qui n'étaient pas favorables à ce projet de société. Des femmes, bien entendu, mais aussi des hommes, et notamment des hommes de cette même clergie qui allaient mettre leur savoir au service des victimes de l'offensive et défendre un autre idéal, celui de l'égalité des sexes. Si l'on ne peut qu'imaginer les innombrables prises de bec que dut provoquer ce désaccord, on possède des milliers de textes où les uns et les autres ont soutenu leur position. C'est ce que les premiers historiens qui étudièrent cette production ont appelé la querelle des femmes. Querelle parce qu'il y a dispute ouverte, des femmes parce que ce sont les femmes qui en occupent le centre. C'est elles que dénigrent et attaquent les misogynes. Le mot est déjà là, donc c'est elles que défendent les champions des dames. Le terme féministe est encore à naître. Loin d'être propre à la France, cette dispute se retrouve dans tous les pays où la clergie devint puissante et entre lesquels les universitaires circulaient, c'est-à-dire à peu près dans toute l'Europe de l'Ouest. mais elle a été particulièrement vive là où les femmes occupaient des positions de pouvoir, là où elles dominaient des cours, là où il leur arrivait de gouverner, là où elles avaient dans leur cercle des hommes prêts à en découdre avec d'autres. Pour ces deux raisons, la France a pris la tête des nations où l'on s'est le plus affronté, et c'est sur son sol qu'ont été développés les premiers traités féministes. Alors quels sont-ils ? Eh bien, il y a la Cité des Dames de la clergesse dixite Christine de Pisan en 1404. Il y a De la noblesse et préexcellence du sexe féminin d'Henri Corneille Agrippa en 1505 en latin, en 1530 en français. Il y a l'égalité des hommes et des femmes de Marie de Gournay en 1622. Et il y a de l'égalité des deux sexes de François Poulain de la Barre en 1673. Et pourtant, seuls quelques spécialistes ont lu ces textes, de même que les diatribes de nos grands penseurs révérés contre celles qui osaient contester l'ordre des mâles. Alors que toutes et toutes Français ou Françaises a été invitée à lire, à voir et à revoir les précieuses ridicules et les femmes savantes afin de rire de nos ancêtres, de nous en désolidariser, afin de comprendre aussi ce qui arrive à celles qui ont le front d'insister. À bonne entendeuse, salut. Voilà, donc je redis en fait sa conclusion sur tout cela, et eh bien c'est que aujourd'hui les féministes ont fait renaître ce mot, le matrimoine, qui existait à cette époque-là, mais qui avait été ignoré ensuite, pour justement repenser ces réalisations culturelles que les femmes nous ont laissées, cet héritage qu'on a voulu oublier et dont la modernité a été spoliée, et qu'effectivement, afin de comprendre où on en est aujourd'hui dans l'histoire des luttes féministes au niveau idéologique, au niveau politique, eh bien, c'est effectivement essentiel de comprendre ce qui s'est passé dans le passé et quels étaient les ennemis, les amis et où en sommes-nous. Donc voilà, je vous invite, si vous voulez en savoir plus, eh bien, vous cherchez donc Eliane Viennot. C'est très intéressant et elle a écrit aussi des ouvrages sur l'écriture inclusive, puisque justement, en fait, là aussi, elle explique que l'écriture, notre langue française, n'a pas toujours été aussi sexiste qu'elle est devenue en fait depuis assez récemment. Et que en fait, autrefois, le français était déjà équipé pour l'égalité, mais que la langue française, en réalité, a été masculinisée à une certaine période. Voilà. Et donc, ceux qui prétendent que c'est compliqué, l'écriture inclusive, etc., se trompent complètement, puisque ça a existé. Et voilà. Et en fait, elle a écrit des ouvrages, en fait, pour faire réapparaître cette écriture inclusive qui, maintenant, est plus ou moins quand même adoptée. Mais ce n'est pas pas du tout grâce à l'Académie française qu'elle critique beaucoup. Voilà. Alors, je vais passer à un autre sujet actuel, enfin, si on peut dire, c'est par rapport à la fin quand même du Grenelle, parce que depuis que s'est clôturé le Grenelle, je n'ai pas pu vous en reparler. Donc c'était le 25 novembre dernier, il y a eu donc jour de présentation par le Premier ministre des 30 mesures de clôture du Grenelle contre les violences conjugales. Alors, pour savoir ce qu'il en est, en fait, je me suis renseignée un peu grâce avec toutes les associations féministes, évidemment. Et puis, il y a eu un rapport très intéressant publié par le Haut Comité à l'égalité, qui a publié un avis qui s'intitule « Violence conjugale pour une culture de la protection des femmes et des enfants » et qui donc fait un bilan de ces mesures. Le Haut Conseil à l'égalité, je rappelle que c'est une instance nationale qui est consultative, mais qui est très c'est important de savoir, qui est indépendante, qui est chargée de la protection des droits des femmes et de la promotion de l'égalité des sexes. Elle a été créée en 2013, elle compte 54 membres, tous bénévoles, qui représentent la diversité des acteurs et actrices, des politiques, enfin des personnes qui luttent pour la politique d'égalité femmes-hommes. Voilà, pour ceux qui suivent l'émission, par exemple, Geneviève Courreau, qui est venue intervenue une fois dans cette émission, est membre, entre autres, de ce Haut Conseil à l'égalité. Voilà, donc, que dit le Haut Conseil ? Eh bien, le Haut Conseil se félicite quand même d'un certain nombre de mesures qui sont jugées indispensables. Quelles sont-elles ? L'ouverture 24/24 du numéro d'appel 3919. La création de 80 postes supplémentaires d'intervenantes sociales ou sociaux en commissariat et gendarmerie d'ici 2021. La prise en compte du suicide forcé dans le droit pénal. Les audits sur l'accueil des femmes victimes de violences conjugales dans les commissariats et gendarmeries. Le développement des espaces de rencontres protégés entre les enfants et le parent violent. Et la généralisation des unités d'accueil médico-judiciaire pédiatrique. Mais, il y a quand même un gros mais. Donc d'autres mesures essentielles doivent encore être précisées. Notamment les questions liées à l'aménagement de l'autorité parentale, l'interdiction de la médiation pénale ou familiale, l'hébergement des femmes en grand danger pour lequel un accompagnement spécialisé doit être financé à la hauteur des besoins des femmes, ce qui n'a pas été fait, j'y reviendrai tout à l'heure. Enfin, la définition du contenu et du volume des formations à l'égalité des enseignantes qui normalement est obligatoire depuis 2013 mais qui n'a pas été opérée avec un module spécifique sur les violences faites aux femmes. Voilà, d'ailleurs, si j'ai le temps dans cette émission, je vous relâterai aussi une tribune des enseignants enseignantes qui se plaignent de harcèlement sexuel qui n'est pas, et pour lesquels elles ne sont pas du tout protégées, au contraire, dans l'éducation nationale. Ils ont fait une tribune récemment dans l'actualité. Alors, donc le HCE est chargé de l'évaluation justement des politiques publiques de lutte contre les violences depuis 2013. Et donc, il effectue un baromètre, en fait. Et ce baromètre s'appuie sur les 5 fondamentaux issus de la parole même qui a été recueillie des femmes victimes. Donc, quels sont ces 5 fondamentaux ? Premièrement, quand les femmes révèlent des violences conjugales, elles ont besoin d'être crues. Pour ce faire, les conditions d'accueil, le recueil de la déclaration, estimant à sa juste mesure la dangerosité de l'agresseur, le délai de traitement et la réponse pénale, dont les défaillances, voilà, viennent d'être mises en lumière, ont été mises en lumière par l'inspection générale de la justice. Tout cela doit être absolument amélioré. Deuxièmement, les femmes ont besoin d'être protégées sans délai via une mise en sécurité et des dispositifs de protection. Les centres d'hébergement spécialisés et non mixtes doivent être davantage soutenus et les mesures de protection qui ont fait leurs preuves renforcées. Troisièmement, les femmes ont besoin d'accéder à des soins pour se reconstruire. Les violences impactent la santé des victimes, que ce soit leur santé physique ou leur santé psychique. Les victimes, ce sont les femmes et ce sont aussi leurs enfants et leurs proches. Ils doivent pouvoir accéder à une prise en charge spécifique, gratuite et accessible géographiquement. Les femmes ont besoin de pouvoir reprendre leur vie en main et pour cela d'un accompagnement global pour accéder ou réaccéder au logement pérenne et à l'autonomie financière, notamment via le travail. Enfin, cinquième point, leurs enfants sont co-victimes des violences conjugales et doivent être considérés comme tels. 143 000 enfants sont concernés par ces violences conjugales. Un traitement adapté de l'exercice de la parentalité est indispensable pour protéger la mère et les enfants. Voilà. Pour finir, il y a aussi un communiqué de presse du collectif national pour les droits des femmes, qui n'est pas forcément très positif non plus sur les mesures, et qui dit surtout qu'il salue les mesures vraiment nouvelles, comme la création de la circonstance aggravante, donc je l'ai déjà dit, de suicide forcé. Mais par contre, on peut dire que le financement est vraiment pas à la hauteur. Donc Édouard Philippe affirme que les 360 millions mis sur la table sont suffisants, et alors que il était demandé par le CNDP et par toutes les associations féministes 1 milliard contre les violences, pour ce qui avait été annoncé comme la grande cause du quinquennat d'Emmanuel Macron. Et donc, cette politique qui n'est pas financée est une politique qui risque de ne pas être appliquée. Voilà, donc le collectif national Droits des Femmes conclut en disant que le gouvernement n'a rien compris à la colère qui monte dans le pays contre ces violences masculines qui pourraient être combattues par une loi cadre réclamée depuis plus de 13 ans par les féministes, comme c'est le cas, par exemple, en Espagne. Voilà. Alors, jeudi dernier aussi, qu'en est-il par rapport aux retraites des femmes ? Eh bien, nous sommes descendus dans les rues par rapport aux retraites. Et il faut savoir que pour les retraites des femmes, eh bien, la situation est bien connue. Les femmes souffrent des inégalités de salaire, des faibles rémunérations des métiers à dominante féminine, des carrières plus courtes que celles des hommes, du fait de carrières morcelées par le temps partiel. Et on retrouve évidemment les inégalités à la retraite de façon très criante. Donc la pension de droit direct des femmes, elle est inférieure de 42% à celle des hommes. Les femmes partent en retraite en moyenne 1 an plus tard que les hommes. Une femme sur 5 attend 67 ans, l'âge d'annulation de la décote, alors que c'est 1 homme sur 12 qui attend 67 ans. Elles subissent malgré tout plus souvent la décote du fait des carrières plus courtes. Leur pension trop faible de ce fait est plus souvent rehaussée par un minimum de pension. Alors il faut savoir que par rapport aux hommes, on a 37% des femmes retraitées qui touchent moins de 1 000 euros de pension brute, c'est-à-dire 909 euros net. Et c'est inégal par rapport aux hommes puisque le pourcentage pour les hommes est de 15%. Alors cette situation, elle se dégrade de plus en plus du fait des dernières réformes passées. Et il est urgent pourtant d'en finir avec ces inégalités, avec les faibles pensions, mais le projet Macron de retraite par points, contrairement aux déclarations du gouvernement, pénaliserait encore plus les femmes. Et c'est ce qu'affirme aussi le récent rapport de l'Institut de la protection sociale. En effet, donc, dans ce projet Macron de retraite par points, eh bien, toute la carrière sera prise en compte pour le calcul de la pension et non plus la meilleure partie. Les plus mauvaises années, temps partiel, congé parental, chômage, années de bas salaire et de précarité, seront alors intégrées et il y aurait donc une réduction des pensions pour de très nombreuses personnes. De même pour les fonctionnaires dont la pension est basée sur les 6 derniers mois. Pour atténuer cela, le projet prévoit d'intégrer les primes dans le calcul de la pension, mais dans de nombreux métiers, particulièrement ceux occupés par des femmes, il n'y a pas ou peu de primes, et lorsqu'il y en a, elles bénéficient plus aux hommes qu'aux femmes. C'est d'ailleurs parce qu'il y a plus de primes dans le privé que les inégalités de salaire femmes-hommes y sont plus importantes. Voilà, donc en fait on demande des mesures qui sont aussi nécessaires que possibles. Les droits familiaux liés aux enfants doivent être maintenus pour atténuer les inégalités actuelles, mais ils ne doivent pas enfermer les femmes dans le rôle de mère. La bonne solution pour en finir avec les inégalités de pension n'est pas de renforcer ces droits complémentaires, mais de renforcer les droits directs des femmes à une pension. Ce qui signifierait augmenter le minimum de pension pour une carrière complète au niveau du SMIC net, mettre fin à l'allongement continu de la durée de cotisation, de plus en plus inaccessible particulièrement pour les femmes, et revenir à une durée réalisable. Le progrès est de permettre à chacun chacune de réduire son temps de travail. Il faudrait supprimer la décote, qui est une double pénalisation de la pension. Il faudrait garantir un taux de remplacement, c'est-à-dire la pension par rapport à salaire, de 75% du salaire. Et il faudrait revenir à un calcul de la pension basé sur les 10 meilleures années pour une carrière complète et une période plus courte pour les carrières plus courtes. Voilà, donc l'égalité entre les femmes et les hommes, c'est un objectif de société qui permettra en outre d'améliorer sensiblement le financement des retraites. Donc il y a eu un tract qui a été distribué, en fait c'est une partie de ce tract que je viens de vous lire jeudi dernier lors de la grève, de toutes les grèves. Donc ce tract, c'est celui donc du collectif national droit des femmes, de femmes solidaires, Oser le féminisme, collectif féministe Rupture, Femmes Égalité, CGTFSU, Union solidaire syndicale, Attaque France et Fondation Copernic. Voilà, donc le temps passe très vite. Je crois que je vais faire une petite pause musicale. Donc je vais vous proposer, voilà, petite musique, donc Under Fire par City of Prague avant de reprendre. Alors, je reprends. Donc, maintenant, je voudrais vous parler de la Ligue internationale du droit des femmes, car c'est une association féministe historique. Et puis, en fait, bon, je suis toute, excusez-moi, un peu perturbée par les problèmes techniques que j'ai eus, excusez-moi. Donc, voilà, tout va bien. Maintenant, ça, on dirait que ça marche. Donc, en fait, je voulais vous parler donc, de la Ligue internationale des droits des femmes parce que, en fait, elle a été fondée par Simone de Beauvoir le 26 août 1983, ensemble avec des jeunes militantes féministes qui sont Linda Veil-Curiel, avocate au bureau de Paris, enfin qui était jeune en fait à l'époque, et une physicienne, une grande physicienne, Annie Sugier, que j'ai eu le plaisir de rencontrer à Marseille et que du coup maintenant je connais, je suis en contact avec elle et du coup je pense très fort à elle. Et une politicienne belge, Anne-Marie Lizin, qui est récemment décédée. Donc en fait, ce sont Annie Sugier, Anne-Marie Lizin, Linda Veil-Curiel, sont trois féministes historiques donc, des années 70 du mouvement de libération de la femme, donc, qui ont cofondé ensuite la Ligue du droit international des femmes avec Simone de Beauvoir. Donc je voulais un peu vous raconter cette histoire qui est très intéressante, qui est très actuelle puisque cette ligue continue. Annie Sugier est la présidente actuellement et organise encore évidemment de nombreuses actions, continue la lutte de façon très active. Donc c'est cela que je voulais un peu vous raconter, puisque c'est très important de connaître justement l'histoire, à la fois l'histoire du féminisme, qu'est-ce que c'est qu'être féministe et quelles sont les luttes féministes. Et je me reconnais dans ce mouvement, enfin, féministe historique qu'on appelle aujourd'hui radical, mais voilà, dont je suis plutôt fière. Alors, donc je vous disais, cette Ligue internationale du droit des femmes, a été fondée après la révolution iranienne de 1079 qui vit les chefs de file religieux arriver au pouvoir. Ces militantes féministes voulaient alors, comme Simone de Beauvoir, en ses débuts des années 80, donner une portée universelle aux droits des femmes afin qu'ils ne soient plus soumis au relativisme culturel. C'est malheureusement encore absolument d'actualité puisque l'universalisme des droits est remis toujours en question, toujours, même aujourd'hui, notamment par les nouveaux courants néo-féminismes qui sont plutôt néolibéraux et relativistes. Donc, à ce moment-là, donc dans les années 80, la question de la laïcité a évidemment émergé au cours de leur combat, c'est-à-dire que ce qui est le véhicule principal de la régression et des stéréotypes à l'égard des femmes, ce sont les religions, quelles qu'elles soient. Voilà ce qui a émergé à ce moment-là. Alors, quels sont les principaux combats de cette Ligue internationale droits des femmes, les combats historiques? Leur premier combat a été le combat pour les réfugiés. Elles ont décidé de se battre pour les femmes du monde entier, pour les femmes réfugiées et pour demander d'obtenir des Nations Unies et des États potentiels d'accueil que soit accordé le statut de réfugié politique aux femmes victimes sous toutes les latitudes de violences masculines. Ce n'est pas encore le cas, malheureusement. Dans la Convention de Genève, il y a une lacune évidente. Et donc, à ce moment-là, il y a eu la rencontre avec la politicienne belge Anne-Marie Lizin autour de Simone de Beauvoir pour lutter pour obtenir absolument ce statut aux femmes. Ensuite, en 1984, elles ont adopté des méthodes musclées pour se faire entendre en France et au-delà. Ainsi, elles ont manifesté bruyamment devant l'ambassade d'Algérie pour que les mères d'Alger obtiennent justice et puissent retrouver leurs enfants franco-algériens après des enlèvements par leur père de l'autre côté de la Méditerranée. Une bataille de plusieurs années pour faire évoluer le droit entre les deux pays, une démarche qui a été heureusement couronnée de succès. Le 21 juin 1988, une convention a été signée entre les deux pays. Puis, il y a eu le combat contre toutes les violences dont sont victimes les jeunes femmes issues de l'immigration, à savoir l'excision, le retour forcé au pays, les crimes d'honneur, entre guillemets, puisqu'on pourrait plutôt les appeler des crimes d'horreur. Alors, lutte contre l'excision. La plus grande réussite de ce trio de choc a touché la sexualité des femmes, touche à la sexualité des femmes, à l'excision et autres mutilations sexuelles pratiquées même en Europe, en France ou au Royaume-Uni, par exemple. Linda Veil-Curiel, donc avocate, a revêtu sa robe d'avocate en se portant alors partie civile contre les actrices de l'excision en France. Les mères qui envoient leurs petites filles se faire mutiler, les exciseuses qui les mutilent. Provoquant la polémique, elle est parvenue à force de plaidoiries dans de retentissants procès à faire condamner ces femmes, considérées alors plus comme des victimes du système traditionnel patriarcal qui sait bien utiliser les femmes comme agents de transmission de ce système en leur faisant intégrer l'obéissance et la soumission au système. Donc voilà, 20 ans après les premières procédures, le débat reste ouvert sur la meilleure stratégie entre loi coercitive, éducation, persuasion pour en finir avec ces pratiques mutilantes de torture en Afrique ou en Asie. Sans doute tout cela à la fois, comme le montrent les affaires en Éthiopie. D'ailleurs, je veux rappeler que Femmes Solidaires Nationales et à Marseille s'occupent d'un projet dont j'avais déjà parlé dans d'autres podcasts, mais il faudra que j'en reparle. En fait, le projet Kimbi Dale qui se passe justement en Éthiopie à l'appel des femmes afar qui ont demandé l'aide de cette association Femmes Solidaires pour lutter contre l'excision. Et il faut savoir que le projet a eu un succès puisque de moins en moins de petites filles, enfin de plus en plus, on va dire, de jeunes filles dans cette région d'Éthiopie ont pu ne pas être excisée. Voilà. L'excision a pu cesser dans de nombreux villages grâce au fait qu'elles ont, Femmes Solidaires a créé un projet d'éducation, d'accès à l'éducation pour ces jeunes filles en fait. Voilà, et ce projet continue. Maintenant, ces jeunes filles ont grandi, elles n'ont pas été excisées, et maintenant il faut lutter encore contre les mariages forcés. Il faut aussi les aider à une autonomie, à ensuite devenir autonomes de façon économique, etc. Donc le projet continue. Ça s'appelle Kimbidale. Voilà, donc je continue sur la Ligue internationale des femmes. Alors, il faut savoir que par rapport, je vous disais qu'ils luttent contre l'excision, dans les pays d'émigration, donc de plus en plus de voix ont rejoint celle de la Ligue du droit international des femmes, jusque dans la très communautariste Grande-Bretagne. Et Linda Veil-Curiel est aujourd'hui partout consultée en Europe pour mettre en place de nouvelles législations. D'anciennes matrones patriciennes et des mamans désemparées condamnées sont devenues ses amies, avec lesquelles elle a écrit des livres et parcouru le monde. Alors un autre combat de la Ligue internationale des femmes, c'est l'interruption volontaire de grossesse. Donc elles se sont mobilisées partout dans le monde, en Europe, et plus qu'elles ne pensaient devoir le faire, le droit à l'avortement qu'elles auraient voulu voir inscrit en lettres capitales dans la Charte européenne des droits fondamentaux, prélude au traité constitutionnel européen, alors que partout, des gouvernements ou des formations ultra-conservatrices tentent de faire reculer ce droit. Bon, on le voit toujours aujourd'hui, bien sûr, encore même peut-être très fortement. Donc en Pologne, ce droit, en Europe de l'Est, en Amérique du Sud, en Irlande, en Italie et même en France, près de 40 ans après cette conquête cardinale pour les femmes. Enfin, la dernière action de la Ligue internationale du droit des femmes, c'est de faire bouger les lignes sur d'autres terrains, le sport d'abord, avec le comité Atlanta Plus qui a été lancé à l'occasion des Jeux olympiques de Barcelone, qui réintégrèrent après 30 ans d'exclusion pour cause d'apartheid l'Afrique du Sud, mais qui dans le même temps avait accueilli 35 équipes nationales qui ne comptaient aucune sportive, tenez-vous bien, dans leur rang. Alors, qu'a fait la Ligue internationale droits des femmes ? Eh bien, elles ont visé les JO suivants, ceux d'Atlanta précisément, et les soubresauts du monde font perdurer ce comité au-delà d'Atlanta et ont entraîné ces militantes là où les femmes ne peuvent exercer toujours pas leur talent d'athlète, donc en Afghanistan, en Iran ou en Arabie Saoudite. Donc aujourd'hui, il y a un collectif qui s'appelle Paris 2014, où en fait elles ont lancé une pétition au comité d'organisation 2024 et en fait elles ont obtenu 2024 signatures de personnes qui se sont adressées au comité organisatif des Jeux Olympiques à Paris 2024 pour demander la solidarité avec les Iraniennes et les Saoudiennes. Donc en fait, quelles sont les raisons de cette campagne que mène cette Ligue de droit international des femmes ? C'est simple. En fait, c'est d'exiger l'exclusion de l'Arabie Saoudite et de l'Iran des Jeux Olympiques d'été de 2024 qui se tiendront à Paris. Pourquoi ? Tout simplement parce que ces deux pays institutionnalisent la ségrégation sexuelle dans toutes les sphères de la vie, y compris dans le sport, et que ceci enfreint aussi la charte olympique. Alors de deux choses l'une, soit la charte olympique ne veut plus rien dire, et dans ce cas-là, on arrête de s'y référer, soit elle est toujours, elle l'est-elle encore, un outil commun, et on veille à son application. Donc la Ligue internationale des droits des femmes demande que les principes éthiques fondamentaux universels qui sont pourtant inscrits dans la charte olympique soient effectivement respectés. C'est le sens de son engagement. Voilà, il faut savoir qu'en 1964, la FIFA avait exclu l'Afrique du Sud. Le comité olympique avait emboîté le pas en 1970 et donc l'Afrique du Sud n'a pu réintégrer la plupart des compétition sportive qu'après l'abolition du régime d'apartheid. Eh bien, aujourd'hui, la Ligue internationale des droits des femmes demande à ce que les mêmes exigences soient appliquées, puisque pour nous, pour elles comme pour moi, l'apartheid racial et l'apartheid sexuel relèvent d'une même atteinte à la dignité humaine. Voilà. Donc, pourquoi l'Iran et l'Arabie Saoudite ? Eh bien, il faut savoir que la participation de ces deux pays aux compétitions internationales est conditionnée à la non-mixité des lieux et compétitions. Les sportifs qui contreviennent à ces règles se retrouvent poursuivis, harcelés. Voilà, il y a plein d'exemples. Sadaf Kadem, la première boxeuse iranienne de l'histoire, qui est en ce moment même menacée d'emprisonnement, ainsi que son entraîneur, pour avoir osé pratiquer son sport dans une tenue normale lors d'une compétition le 13 avril. Shiva Amini, star du football iranien, qui a été radiée à vie de l'équipe nationale pour avoir disputé une partie amicale sans voile et en short avec des garçons lors d'un voyage privé et en Suisse, etc., etc., etc. Voilà, donc dans les derniers événements importants que je voulais rappeler, il y a le 9 septembre, il y avait eu la mort de Sahar Khodayari, surnommée la Blue Girl, en raison de sa couleur favorite, donc en Iran, celle de son équipe de football préférée. Elle avait été arrêtée en mars alors qu'elle tentait d'entrer dans le stade Azadi à Téhéran. Et en apprenant qu'elle risquait une lourde peine de prison, elle s'est immolée par le feu devant le tribunal révolutionnaire de la ville. Elle est morte à l'hôpital, elle avait 29 ans. Voilà, donc le 24 septembre, il y a eu une bonne nouvelle, c'est que l'UEFA s'est engagée pour le droit des femmes. Donc on doit saluer cela. Elle a invité les fédérations et les clubs à ne plus organiser de rencontres dans des pays qui limitent l'accès aux stades, des stades aux femmes. Voilà. Le 9 novembre, il y a eu aussi une bonne nouvelle par rapport aux équipes nationales de football allemandes qui ont décidé de ne pas se rendre dans des pays où les femmes ne peuvent pas accéder au stade. Et le 14 novembre, la télévision publique espagnole a renoncé au droit d'une super coupe d'Espagne en Arabie Saoudite. Donc voilà, des changements sont possibles. En ce moment, il y a une pétition qui est lancée par des Iraniennes. Il s'agit de demander à la FIFA de sanctionner l'Iran en raison de l'interdiction faite aux femmes d'entrer dans les stades, ce qui est contraire au règlement de la FIFA. Donc vous pouvez trouver sur change.org. Voilà. Donc, du coup, je regarde, il me reste 10 minutes. Eh bien, je vais, en cherchant en fait, j'avais demandé à Annie Sugier, comme ça des fois je lui parle au téléphone, mais bon, c'est pas évident, elle habite à Paris, et j'aimerais mieux la rencontrer, j'espère qu'elle va revenir bientôt à Marseille, et en fait, j'aimerais tant qu'elle me raconte en fait sa rencontre avec Simone de Beauvoir, ce qui s'est passé, etc. à ce moment-là. Et du coup, je lui disais ça au téléphone, mais on s'est dit que voilà, quand elle viendra à Marseille, elle me le racontera, j'espère. Et en fait, comme cette nuit j'avais une insomnie, eh bien, je me suis mis à chercher des choses, si je pouvais trouver, par rapport à ce qu'elle aurait pu écrire sur le sujet. Et finalement, je suis tombée sur un écrit de Annie Sugier, justement, qui parle de ça, de la rencontre avec Simone de Beauvoir et de cette histoire. Et comme c'est très, très beau et très, très émouvant, je vais vous en lire une partie avec le temps qui reste. Nos chemins se sont croisés. Ce jour-là, nous étions quatre militantes du mouvement de libération des femmes à discuter du féminisme avec Simone de Beauvoir. C'était au milieu des années 70. Nous nous appelions Cathy, Liliane, Anne et Annie. J'ai retrouvé par hasard le texte de nos échanges. Ils étaient retranscrits dans la revue ARC. Une photo de Simone de Beauvoir figurait en couverture avec le titre « Simone de Beauvoir et la lutte des femmes ». Cette photo, je la connais bien. Elle avait été prise plusieurs mois auparavant dans l'appartement de la rue Schoelcher où nous étions quelques-unes à rencontrer régulièrement l'auteur du deuxième sexe pour faire le point sur les actions que nous menions dans les associations qu'avait accepté de présider. D'abord, la Ligue du droit qui s'attaquait au sexisme sous toutes ses formes, puis la Ligue du droit international des femmes afin de dénoncer le relativisme culturel qui justifie les plus grandes injustices à l'égard des femmes au nom du respect des religions, des traditions et des cultures. Comme si la notion de droit universel ne s'appliquait pas aux femmes. La photo était signée de Jean-Loup Sieff, un grand nom de la photographie. Il avait centré l'image sur Simone de Beauvoir, agacé sans doute d'avoir dû partager son champ de vision avec les inconnus que nous étions. Ceux qui avaient retenu cette photo pour la couverture de la revue ARC, avait achevé le travail en ne conservant que le visage de Simone de Beauvoir et en découpant sur la droite et sur la gauche les visages des deux militantes les plus proches, dont Anne Zelensky, de laquelle on n'aperçoit qu'un œil et une mèche de cheveux. Symboliquement, Ce qui s'est passé avec cette photo traduit bien la façon dont Simone de Beauvoir cherchait à nous aider et les difficultés qu'elle rencontrait pour réussir dans sa démarche. Elle voulait nous faire bénéficier de sa notoriété, alors que les médias, prisonniers du star system, se refusaient à voir en nous celles qui prennent le relais et qui commençaient à faire bouger les choses. À la fois professeur et élève face à nous, Simone de Beauvoir faisait preuve d'humilité et de brusquerie. Pour ceux qui aujourd'hui liraient le texte de nos échanges à cinq voix, il est indéniable que c'est bien elle qui lançait la discussion. Non pas pour nous imposer son point de vue, mais pour comprendre où nous nous situions par rapport à des questions qui lui semblaient fondamentales. Au cours de cet entretien, elle voulut d'abord planter le décor, comme un mathématicien le ferait en posant les hypothèses préalables à une démonstration. Donc là, c'est Simone de Beauvoir qui parle. Il y a des points que nous ne discuterons pas, parce que nous sommes toutes les cinq d'accord là-dessus. C'est d'une part le fait qu'il y a une oppression des femmes qui est due au système patriarcal caractérisant notre civilisation. D'autre part, que notre situation qu'on peut appeler inférieure, en tout cas moins avantageuse, n'est pas due à une fatalité d'ordre biologique, psychanalytique ou d'aucune espèce. Nous récusons l'idée d'une nature féminine donnée qui nous condamnerait au rôle d'opprimé. Et c'est bien parce qu'il n'y a pas de fatalité que nous pensons pouvoir mener une lutte contre la situation qui nous est faite, contre ceux qui nous l'imposent. Fin de citation. Par cette déclaration, Simone de Beauvoir marque bien cette rigueur qui lui était propre, qui avait quelque chose d'abrupt. Elle se distinguait en cela de la plupart de celles et de ceux qui ont abordé la question des femmes. Aucune fioriture, aucun faux-semblant. Elle va directement au fait. Il y a bien un problème. Les femmes sont opprimées. Il n'y a aucune fatalité à cela. Ces postulats ne sont plus discutables après le deuxième sexe. L'opprimé ne peut construire sa libération que s'il reconnaît ces deux points. Parce qu'elle va de l'avant, ce qui intéresse Simone de Beauvoir, c'est de définir comment se caractérise la lutte féministe. Et les questions qu'elle nous pose restent encore aujourd'hui d'actualité. Comment la lutte des femmes contre leur oppression spécifique se relie-t-elle à celles qui sont menées contre les autres oppressions, en particulier la lutte des classes ? Par où les femmes doivent-elles passer pour progresser dans la société ? Est-ce que l'on exclut la possibilité pour chacune d'arriver dans le monde tel qu'il est à des postes importants ? C'est tout le problème de la promotion et des femmes alibis qui est posé, alors même que les femmes ne sont pas déchargées de leurs fonctions domestiques traditionnelles. Autre question fondamentale, celle de la différence entre les sexes et de la féminitude, entre guillemets, non pas liée à la biologie mais du fait de l'oppression, qui peut avoir développé des aptitudes particulières, écoute, sens pratique, relations au pouvoir différentes. Ces valeurs, faut-il essayer de les universaliser ou faut-il au contraire les refuser ? Faut-il tout rejeter, tout réinventer, même les arts et l'écriture ? Peut-on réellement recréer un outil culturel ? À ce propos, elle eut la réaction suivante. On a le droit de crier, mais il faut que ce cri soit écouté, il faut que cela tienne debout, il faut que cela résonne chez les autres. Nos rencontres. Ce fut d'abord une rencontre intellectuelle par livre interposé. Le deuxième sexe, naturellement. Je ne me souviens plus de la date à laquelle cela s'est produit. En tout cas, c'était avant le renouveau de la lutte des femmes au cours des années 70. Féministe, je l'étais totalement, et depuis toujours. Et pourtant, sans doute pour cela, ma réaction à la lecture de ce livre fut celle du rejet. Il me brûlait l'esprit. Il était comme une sorte de poison, sans contrepoison. Je n'arrivais pas à supporter la description que faisait Simone de Beauvoir de la situation d'oppression des femmes, alors que moi-même, j'étais choquée par tout ce qui, dans la culture, la religion, la vie quotidienne, traduisait l'infériorité dans laquelle étaient maintenues les femmes. Ce qui me manquait, et que j'appelle le contrepoison, c'était la lutte des femmes pour en sortir. L'horreur de ce que décrivait Simone de Beauvoir était telle que cela écrasait tout ce qui allait vers la libération et à quoi je désirais adhérer. Quand dans le chapitre sur les données de la biologie, elle commence par écrire les quelques lignes suivantes. La femme, c'est bien simple, disent les amateurs de formules simples. Elle est une matrice, un ovaire, elle est une femelle. Ce mot suffit à la définir. Dans la bouche de l'homme, l'épithète femelle sonne comme une insulte. Pourtant, il n'a pas honte de son animalité. Il est fier au contraire, si l'on dit de lui « c'est un mâle ». Je n'avais pas besoin de cette démonstration qui me tirait vers le bas, mais je comprends aujourd'hui qu'elle était nécessaire, puisque toujours et encore, la société refuse de reconnaître qu'il y a un problème, et c'est bien ce que voulait dire Simone de Beauvoir dans nos débats. Oh, pardon, je vais être obligée de, malheureusement, de terminer là, c'est vraiment dommage. puisque l'heure est arrivée. Bon, eh bien, c'est pas grave, je vous continuerai cette histoire entre Annie Sugier, présidente de la Ligue internationale du droit des femmes, et Simone de Beauvoir dans une autre émission, puisque c'est pas fini, ce texte d'Annie Sugier n'est pas terminé. Et il raconte aussi la rencontre avec une jeune femme en 2002 dont la sœur avait été brûlée vive. Voilà. Donc je vais vous dire merci. J'ai oublié de dire que Annie Sugier, je voulais juste quand même, j'ai oublié de le dire, c'est important, que c'est toujours une grande physicienne, qu'elle est reconnue au niveau international pour ses compétences dans le domaine de la radioprotection. Et elle a occupé pendant une décennie les postes d'experte auprès de la Commission européenne. Voilà. Et voilà, c'est elle qui a ouvert aussi le premier refuge pour femmes battues à Clichy en 1978. Merci, à bientôt. Et voilà, je cherche donc juste mon générique. Merci beaucoup de votre soutien. Et si vous voulez me contacter sur le Facebook, La Révolution sera féministe. Au revoir.
Nous qui sommes un passé, les femmes, nous qui n'avons pas d'histoire,